Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bossouma.
Reprise effective des courses lundi à Beni après plus de 3 semaines d'arrêt dues aux journées ville morte. Cependant, certains parents retiennent leurs enfants à domicile pour raisons de sécurité, disent-ils, mais les courses sont dispensées pour rattraper le temps perdu, explique une enseignante de Beni. L'information comme bien public, c'est le thème de la journée mondiale de la liberté de presse célébrée aujourd'hui 3 mai. Au sud Kivu, cependant, les tenants du pouvoir ne facilitent pas l'accès aux sources d'information. C'est ce que dénonce le président de l'UNPC Sud Kivu. Et puis, l'invité de ce midi, Maître Matabishi Rachid, président du comité de suivi des accords de cessez-le-feu entre les différents groupes armés d'Uvira, Fizi et Mwenga. Il nous parle de la situation des déplacés dans cette région après sa récente visite à Bouéguéra dans le territoire d'Uvira. Madame, Messieurs, bonjour. Les cours ont bel et bien repris ce lundi 3 mai dans la sous-division de l'EPST Beni. Mais pour cette première journée, certains élèves font encore de l'école buissonnière et ne se sont pas présentés à l'école. Plus de détails avec Guylaine Kassassia.
Pour cette première journée, la reprise est encore timide dans toutes les écoles. Dès les premières heures, les salles de classe étaient quasi vides. Dans une salle de classe d'un effectif de 60 élèves, l'on pouvait trouver seulement 6 élèves. En dépit de ces effectifs réduits, nous dispensons les cours pour rattraper les temps perdus, a fait savoir une enseignante de la 6e année à l'EPA Beni que Radio Kapi a rencontré dans sa classe. Certains parents rencontrés disent avoir volontairement retenu les enfants à la maison pour observer d'abord l'ambiance pour cette première journée. Certains disent craindre pour la sécurité de enfants, vu le climat qui a régné dans certaines écoles les jours passés. Pour sa part, le sous-préfet de la sous-division de l'EPST Beni promet se prononcer sur l'effectivité de cette reprise dans les heures qui suivent. Ceci après une ronde qu'il va effectuer dans toutes les écoles de sa juridiction. Pour rappel, c'est le 5 avril que les activités scolaires avaient été aussi arrêtées à cause des journées ville morte décidées par certains groupes de pression pour réclamer le retour de la paix dans la zone de Beni. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Nitori, 13 miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC ont été tués et 14 autres capturés au cours des combats hier avec l'armée. C'était au centre de Nyakoundé, dans la chefferie de Andisoma, 45 km au sud de Bunia, territoire d'Irumu. Ce bilan est livré ce lundi par l'armée qui dit avoir récupéré 3 autres localités environnantes de Nyakoundé. Martial Kiza nous en dit plus.
Ces opérations militaires ont permis aux FARDC de chasser les miliciens de la force patriotique intégrationniste du Congo FPIC dans les centres de Nyakoundé et aux localités Kalingi, Malubata et Malumbabo. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, ces rebelles ont occupé ces villages pendant 3 semaines. Grâce à l'appui aérien et logistique de la MONUSCO, les forces loyalistes ont pacifié ces entités, indique le lieutenant Gilles Ngongo. 13 miliciens ont été neutralisés et 14 autres capturés, dont 7 blessés graves qui sont internés à l'hôpital général de référence de Nyakoundé, affirmait les porte-parole de FARDC. Un militaire a également été grièvement blessé au cours de ces combats. L'armée demande à la population qui avait fui de regagner son millier car, selon elle, la situation est sous contrôle et leur sécurité garantie. Certains notables de cette chefferie déplorent cependant quelques scènes de pillage dans des habitations par les belligérants. Ils encouragent les autorités à privilégier la voie de négociations avec ces miliciens pour éviter les effets collatéraux de la guerre sur la population civile. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, le Premier ministre a bouclé hier sa visite de 48 heures à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bien avant son départ, Jean-Michel Samalukonde a parlé de la situation sécuritaire avec plusieurs délégations qu'il a reçues, notamment la Fondation Katangaise et les leaders religieux. Des pistes de solutions lui ont été proposées pour mettre fin à l'insécurité dans la province. Les était avec Jean Gandou.
Parmi les personnes reçues par le Premier ministre Samalukonde pour parler de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga se trouvent les membres de la Fondation Katangaise. Cette dernière est une structure qui regroupe toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga. Son président Raphaël Mututa a indiqué que pour lutter contre l'insécurité causée par les insurgés Bakata Katanga, la Fondation Katangaise a demandé au Premier ministre de dialoguer avec ces Bakata Katanga pour chercher à connaître leurs véritables revendications. Raphaël Mututa.
Nous avons songé qu'il fallait nécessairement qu'on puisse organiser la baraza, c'est-à-dire nous sommes des Africains, quand il y a des problèmes, il faut qu'on se mette sous l'arbre à palabre et qu'on parle qu'on organise, qu'on coordonne, qu'il y ait un dialogue. Nous avons vu de l'autre côté, à Beni, tout consort, il y a des insurgés qui sont venus.
Les leaders religieux qui ont aussi rencontré le premier ministre ont proposé que chacun d'eux sensibilise les jeunes de sa communauté pour qu'ils n'intègrent pas les mouvements subversifs, ce qui pourrait contribuer à lutter efficacement contre l'insécurité décriée dans la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, 17 jeunes, autrefois présentés par les services de sécurité comme faisant partie des Baka Takatanga, ont été libérés. La société civile qui a mené le plaidoyer salue la collaboration des services de sécurité qui, après vérification, ont libéré ces jeunes, dont la plupart sont des élèves. Explication de Kalua Chulu, président du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous avons eu de plaintes de certaines familles parce que les leurs étaient arrêtés et principalement le jeune Jean qui la plupart étaient aussi élèves assimilés au mouvement Baka Takatanga. Et c'est comme ça que nous sommes allés vers les autorités chargées de la sécurité. Après vérification, on a estimé qu'ils n'avaient rien à faire avec le mouvement Baka Takatanga et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Si nous saluons la franche collaboration entre nous et les services de sécurité ainsi que la justice parce qu'ils ont quand même écouté nos doléances, notre plaidoyer et voici que nous avons eu à récupérer 17. Il y a d'autres qui ont été transférés à la CASAPA et selon les informations à notre possession, il y a d'autres qui sont transférés à Kinshasa. Et pour votre information, les familles continuent toujours à venir chez nous et nous allons faire un effort pour que davantage nous continuions avec notre mission, à savoir les plaidoyers.
Et puis, l'état de siège décrété vendredi dernier par le chef de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour lutter contre les massacres des civils par des groupes armés suscite plusieurs questionnements sur son efficacité et ce que cette mesure implique concrètement. Conformément à l'article 85 de la Constitution, la loi devrait en principe déterminer les modalités d'application de l'état de siège. Mais comme cette loi n'est pas encore votée, tous les regards sont tournés vers l'ordonnance du chef de l'État qui prendra des mesures nécessaires en vertu de l'article 145 de la Constitution pour faire face à l'insécurité dans cette partie du pays. Mais à quoi ressemblera cet état de siège décrété par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Michel Kifindangoy?
Par définition scientifique, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent pour la nation. En entendant l'ordonnance du chef de l'État qui en déterminera les mesures d'application, notez qu'en principe et conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'état de siège comprend plusieurs dispositions dont le remplacement de la police par l'armée pour la sécurité publique, la restriction de certaines libertés de l'état des droits telles que garanties par le titre 2 de la Constitution, comme les libertés de circulation, de manifestation et d'expression, le contrôle des médias, la mise en vigueur d'un couvre-feu sur tout le territoire concerné par l'état de siège. Notez que la mobilisation nationale peut aussi être envisagée et décidée. Sur le plan judiciaire, les tribunaux civils seront remplacés par des tribunaux militaires. Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées que durant une période de 30 jours renouvelables, conformément à l'article 145 de la Constitution.
En plus bref, notez l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa du procès du meurtre de Delphin Kaimbi. Cet ancien général FARDC en charge des renseignements militaires a été retrouvé mort dans sa maison le 28 février 2020 à Kinshasa. 6 personnes, dont la veuve du général Brenda Nkoy, vont comparaître dans une audience publique devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Elles sont accusées d'homicide volontaire avec préméditation sur Delphin Kaimbi et de participation à la commission d'assassinat. Dans une autre affaire, toujours devant le même tribunal, s'ouvre le procès de Jean-Claude Muyambo et consorts contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Caleb Mutondo. Célébration aujourd'hui 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse, thème de cette année, l'information comme bien public. Au Sud Kivu cependant, la liberté de la presse n'est pas garantie par les tenants du pouvoir qui ne facilitent pas aux journalistes l'accès aux sources de l'information. C'est ce que dénonce le président de l'UNPC Sud Kivu à l'occasion de cette célébration. Darius Kitoga lance ici un appel aux autorités compétentes. Suivez.
des problèmes que nous avons au Sud Kivu, l'information n'est pas accessible. On peut dire ce qu'on a à dire et la plupart des fois, l'autorité fait semblant et n'attaque pas. Mais le gros problème, c'est la source. Parce que celui qui dit information comme bien public, il voit en fait l'accès à cette information-là. Et lorsqu'on n'accède pas à l'information, là, il y a effectivement restriction de la liberté de la presse. Et c'est pour nous une occasion de demander encore une fois aux autorités de tenir leurs promesses. Parce que chaque fois qu'une autorité prend le pouvoir, elle affirme urbi et orbi à haute et intelligible voix qu'elle va combattre pour que la presse devienne le quatrième pouvoir. Et c'est pour nous une occasion de dire l'obligation de divulguer doit être observée.
Province du Maïndombe, l'évêque d'Inongo, chef de la province, appelle notamment l'inspection générale des finances, IGF, à procéder à un audit urgent et sans complaisance de la gestion des ressources locales et autres fonds alloués au Maïndombe. Monseigneur Donatien Bafouidine Sony formule cette demande après avoir constaté, dit-il, que le Maïndombe est toujours enclavé et la situation socio-économique de la population locale demeure dégradable, malgré toutes les ressources que possède la province. Plus de détails avec Irène Boma.
Selon l'évêque d'Inongo, Monseigneur Donatien Bafouidine Sony, il est inconcevable qu'au regard de ses innombrables ressources, notamment humaines, agricoles, aquatiques, halieutiques et géologiques, la situation socio-économique de la population de la province du Maïndombe demeure toujours déplorable. À l'en croire, avec une bonne gestion de toutes ses potentialités, les conditions de vie de cette population seraient déjà améliorées. Les prélats catholiques en appellent donc à un audit urgent de l'inspection générale des finances dans la province du Maïndombe afin que les biens publics soient respectés. Donatien Bafouidine Sony.
Nous en appelons à un audit urgent et sans complaisance de la gestion des ressources locales et autres fonds alloués à la province par les instances habilitées, en l'occurrence l'inspection générale de finances, pour que le respect des lois et du bien commun serve à bâtir réellement un état de droit. Il est plus qu'urgent pour les autorités, aussi bien au niveau national que provincial, d'initier des projets de développement de la province de Maïndombe pour la sortir de son enclavement et des ténèbres dans lesquelles elle risque d'être plongée encore longtemps.
L'évêque du Nongo invite les fils et les filles du Maïndombe, chacun à son niveau de responsabilité, au changement profond dans la manière de vouloir servir ou de gérer cette province. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction la province du Sud-Ubangi, poursuite ce lundi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune pour atteindre la population cible estimée à plus de 3 millions de personnes. L'autorité provinciale a demandé l'implication de la société civile, des églises et ONG à sensibiliser leur base. C'est notamment les populations des 16 zones de santé que compte la province. Le point avec Paul Richard Malingela.
Troisième jour ce lundi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune au Sud-Ubangi. Les vaccinateurs appliquent la double stratégie. Ils sont d'abord déployés dans les 2209 centres fixes prévus pour la vaccination des populations cibles, soit plus de 3 200 000 personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Mais quand les centres sont vides ou moins fréquentés, les vaccinateurs se déploient alors vers la population. En vue de la réussite de cette campagne, le gouverneur de province intérimaire Zéphirin Zaboussou a invité sa population à se rendre massivement à cette vaccination à travers les 16 zones de santé que compte la province. Ceci n'a rien à voir avec la vaccination du Covid-19, a-t-il rassuré. Bien au contraire, a-t-il ajouté, cette vaccination sert aussi à lutter sensiblement contre les hypertensions. C'est pourquoi l'autorité provinciale a sollicité l'implication de la société civile, des confessions religieuses notamment, afin de sensibiliser la population. Lors du lancement, le gouverneur intérimaire et les membres de l'exécutif provincial étaient les premiers à avoir leur vaccin contre la fièvre jaune en guise d'encouragement à la population. Bandaka pour Chamanenge, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
Coronavirus à Madagascar. Des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le président André Rajoelina à la télévision nationale. Mesures consécutives à la deuxième vague de Covid-19 observée depuis près d'un mois. Le président malgache a notamment annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours dans le pays et les premiers vaccins sont attendus la semaine prochaine. Bangladesh, au moins 26 personnes mortes ce matin du 3 mai dans une collision entre deux bateaux sur un fleuve dans le centre du Bangladesh, rapporte la police. Nous avons secouru 5 personnes et récupéré 25 corps, a déclaré à l'AFP le chef de la police locale après cet accident survenu près de la ville de Chibchar. Il s'agit d'un bateau qui transportait au moins 30 passagers et une barge chargée de sable.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Maître Matabishi Rachid, président du comité de suivi des accords de cessez-le-feu entre les différents groupes armés locaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga dans le sud Kivu. Il nous parle de la situation des déplacés dans cette région après sa visite mardi dernier à Bouegera dans la plaine de la Ruzizi, territoire d'Uvira. Cette localité abrite depuis 3 jours les déplacés ayant fui les hostilités entre groupes armés dans les hauts plateaux de la chefferie de Bafouliro. Maître Matabishi Rachid s'entretient avec Fiston Goma.
Maître Matabishi Rachidi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez de Bouegera dans la plaine de la Ruzizi, où vous avez été en contact avec les déplacés en provenance des hauts plateaux. Quel a été votre constat?
Nous avons vu les déplacés de provenance de Kitoga, et Kageregere, Kifune, Murambi, Bibangwa, dans le moyen et au plateau de la chefferie de Bafouliou.
Ils sont combien?
Ils sont au nombre de 2320. Il y a d'autres qui sont en Lemera. C'est plus de 5000 déplacés. Alors, ce que nous avons rencontré à Bouegera, c'est 2320 déplacés.
Quel est leur état?
Leur état psychologique est très mauvais. Comme vous voyez, et quelqu'un qui a laissé sa maison et aller et se déplacer chez l'autre, il n'a plus espoir de vivre. Ils sont là sans assistance. Ils n'ont pas là où ils sont cantonnés tous. Ils ont trouvé des écoles, des églises. C'est là où ils se sont réfugiés.
Ils sont en majorité des hommes, des femmes ou comment?
La majorité sont les jeunes, les femmes et les enfants, les vieillards qui sont nombreux. Ce qui les a motivés de quitter les villages sont les affrontements qui ont été menés par Turguanejo et la coalition des Maïmaï. Turguanejo aussi, des Mouranvia, est venu attaquer Masango. Il y aura l'échec. La population a eu vraiment peur de rester dans ce village parce qu'il y aurait peut-être les représailles du côté Maïmaï. C'est ce que la population a craint. Une fois restés là, peut-être ils seront massacrés. C'est la peur. Cela est provoqué par les tireurs de ficelles. On vient fraîchement d'un dialogue où les communautés ont pris des engagements pour leurs différends. Alors, n'attendez que la restitution. Chaque communauté a le devoir de restituer les engagements qu'ils ont pris par rapport à d'autres communautés. Il y a les groupes armés aussi qui ont pris des engagements. Et les groupes armés attendent ça. Mais pourquoi maintenant la zone est déchirée encore? Il y a certains qui veulent saboter les dialogues de Kinshasa en manipulant les Maïmaï, en manipulant les Turguanéo. Et voilà. Faut pas oublier aussi qu'il y a les groupes armés étrangers. Et la victime, c'est la population de Kaolo-Olo, avec les groupes armés étrangers.
Mais vous ne vous êtes pas intéressé aux personnes qui sont concernées directement sur le terrain, pourquoi?
Les groupes armés, ils ont été représentés favorablement parce que chaque seigneur de guerre a signé un feu de route qui a autorisé son délégué à participer au dialogue. C'est moi qui les a amenés à Kinshasa. Je suis parti avec eux. Donc, pour les communautés, c'est ici de leurs intracommunautaires. Ce sont les communautés qui ont choisi leurs délégués pour les représenter. Les groupes armés ont été valablement représentés. Et ils ont pris les engagements parce qu'ils ont été valablement représentés. Parce qu'on nous a demandé 10 délégués sur 84 groupes armés opérant dans la zone. Alors, on nous a demandé 10 membres de groupes armés. Et on a choisi dans chaque axe. Il fallait qu'il y ait une représentativité. Et c'est ce qu'on a fait. Aucun membre du groupe armé est venu d'Uvira, de Bukavu, ni de Goma. Tous sont venus dans la zone
des hauts plateaux.
Des hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga d'Alitombe. Les tireurs de ficelles, ils ont eu l'occasion de manipuler et pour qu'il y ait sabotage, des engagements pris. Et c'est là, nous, comité de suivi, on n'acceptera jamais.
Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre comité par rapport à cette nouvelle donne dans la région?
Nous allons dénoncer pour aider le gouvernement à avancer, pour que la paix revienne, pour que la sécurité soit rétablie. C'est ce que nous allons travailler. Nous sommes en train d'organiser une mission pour mieux identifier et voir la faisabilité et la possibilité de les faire retourner dans leurs villages respectifs.
Avec quelle garantie là-bas dans leur zone de retour?
La garantie... Première des choses, nous voulons travailler sur le respect de l'accord et que cette population ait confiance à notre armée. Parce que c'est notre armée qui leur garantit la sécurité. Et que notre population ait la confiance à la MONUSCO. Nous travaillons avec la MONUSCO pour l'installation de l'SID à Kahololo pour permettre que la population déjà en déplacement puisse retourner et appeler aussi les groupes armés, les Maïmaï, les Tourguanéo et les autres au respect de l'accord de cesser les faits.
Merci beaucoup, Monsieur Matabiche.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le président du comité de suivi des accords de cessez-le-feu entre les différents groupes armés locaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous sommes dans le sud Kivu. Ils s'entretenaient avec Fiston Ngoma. Voilà, c'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Tikota Chivueta sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la technique Jean-Claude Siala et devant ce micro Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis.